Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Bonjour à tous, Armand Dubois au micro. La prochaine heure, nous allons la passer avec un musicien qui fut boursier du gouvernement du Québec et qui est allé étudier l'orgue à Paris avec ni plus ni moins qu'un autre grand musicien, Maurice et son épouse Marie-Madeleine Duruflé. C'était en 1970. À son retour, il fut organiste adjoint aux églises Saint-Thomas-Apôtre, Notre-Dame-du-Rosaire et Saint-Alphonse-Dieuville de Montréal, avant de devenir titulaire des grandes orgues de la Basilique Notre-Dame de Montréal en 1973. Il a inauguré en 1977 l'orgue Casavant restauré de l'église de Mont-Saint-Hilaire, l'un des premiers instruments d'ailleurs de ce facteur. C'est aussi un compositeur. C'est donc avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui M. Pierre Grandmaison. Bonjour à vous.
Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir et de revoir les studios de Radio Ville-Marie.
Oui, parce qu'il faut dire que vous avez été longtemps animateur ici.
Plusieurs années ici. Je faisais l'offrande musicale dans le temps et j'ai beaucoup aimé mon expérience.
Et vous aviez même eu un été, semble-t-il, très achalandé.
Absolument, oui, parce qu'on m'avait demandé de faire une émission tous les jours durant l'été. Alors évidemment, ça m'avait demandé beaucoup de... Il y avait des émissions que je faisais en direct, mais il y avait aussi des émissions que je faisais enregistrer. Et c'est parfois plus d'ouvrage de préparer une émission enregistrée que faire en direct, parce qu'il faut tout planter, nos plages de disques, nos interventions pour longtemps à l'avance. Alors, c'est pas évident.
Ça nécessite une bonne planification.
Effectivement, oui.
Monsieur Grandmaison, je le disais précédemment, vous avez eu une formation de haut niveau.
Oui.
Vous avez eu l'occasion de travailler avec Maurice et Marie-Madeleine Duruflé.
Oui.
Quels souvenirs gardez-vous de cette époque?
Moi, je vais vous dire, Maurice et Marie-Madeleine Duruflé, pour moi, Maurice Duruflé est mort en 1986 et Marie-Madeleine, ça va faire 10 ans cette année. Je garde en mémoire quelque chose de profondément vivant de ces deux personnes parce que ils m'ont profondément marqué tous les deux. Et une des choses qui restera toujours imprégnée dans ma sensibilité, c'est leur grande simplicité. C'était des personnes qui avaient des noms planétaires hein, au niveau du prestige. Et ils avaient tout de l'anti-héros. Marie-Madeleine Duruflé, c'était une personne d'une simplicité qui aimait beaucoup rire et qui aimait beaucoup quelques bonnes blagues de temps en temps. Et on avait beaucoup de plaisir ensemble.
On disait même que c'était peut-être la Castafia.
C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me plaisais toujours à dire que... Parce qu'elle était le sosie de la Castafiore dans Tintin. Vous savez, le chignon, le nez très pointu. Enfin, elle faisait très vieille France aussi, très distinguée à l'orgue. On sait que jouer l'orgue, c'est très physique. On voit souvent jouer l'orgue par un homme, mais jouer l'orgue par une femme, bon, c'est souvent pas évident. Et elle avait cette touche très féminine au plan physique à l'orgue. C'était extraordinaire.
Parlons justement du jeu. Vous dites que c'est très physique.
Oui.
Ça demande un effort réel.
C'est très important parce que, bon, d'une part, il y a les mains qui jouent sur 2, 3, 4 claviers, 5 claviers. Et il y a les pieds, et pas seulement le pied gauche, comme on fait souvent dans l'orgue populaire. C'est les deux pieds qui marchent ensemble. Alors, dans les grandes œuvres de Bach, dans les œuvres de Franck, de Liszt, tout le répertoire contemporain, Duruflé, l'anglais, Messiaen, les deux pieds sont Dupré. Les deux pieds sont constamment concernés dans ça.
On n'a pas idée à quel point le niveau de concentration doit être à ce moment-là très élevé.
C'est que ça doit prendre une concentration et une coordination. Marie-Madeleine Duruflé, à la fin de sa vie, évidemment, elle était très, très diminuée et elle pouvait encore jouer du piano. Mais elle nous disait souvent, je vous avoue que mes pieds s'ennuient.
Mais une autre, parce qu'aujourd'hui, nous allons écouter aussi beaucoup de musique.
Oui.
Une autre grande organiste de chez nous,
oui,
qui a pour nom Catherine Todorovski, que vous, oui, connaissez sans,
oui,
aucun doute.
Elle joue très bien.
Nous avons choisi pour initier cette émission une pièce d'un compositeur qui n'est peut-être pas très connu, à tout le moins par des néophytes comme moi, qui s'appelle Baldassare Galuppi.
Galuppi, oui.
Mais il a composé une sonata. Nous allons entendre l'allegro et spirituoso de cette sonate, qui est vraiment très enjouée. Mm-hmm. Et c'est probablement un cadeau que nous vous offrons d'entendre quelqu'un d'autre que soi-même jouer.
Absolument. Puis j'ai une profonde admiration pour Catherine, qui est une excellente musicienne. Pierre Grandmaison est avec nous aujourd'hui. Alors, quand on écoute d'autres organistes, j'imagine qu'on est, quand on est soi-même organiste, un peu plus critique. Oui. Moi, il y a une personne, avant de passer à ça, il y a une personne à qui je voudrais rendre un vibrant hommage. C'est celle avec qui j'ai passé mon bac à l'Université de Montréal, qui était Françoise Aubut. Françoise Aubut, qui a été premier prix du Conservatoire de Paris en 1944, après avoir été internée par les Allemands. Et qui était une élève de Marcel Dupré. Et je dois dire qu'elle m'a donné cette technique à l'orgue. Je lui dois, elle a fait l'organiste que je suis. Je suis allé ensuite peaufiner mon plan artistique, je dirais, oui, chez les Duruflé. Mais je pense que Françoise Aubut était une personne d'une très, très grande érudition et une très, très grande musicienne.
Et quand vous dites qu'elle vous a donné cette technique, elle vous a transmis la discipline, j'imagine, à l'égard de l'instrument.
Mon premier professeur d'orgue avait été Eugène Lapierre. et qui a été lui-même professeur de Françoise Aubut. Alors donc, j'étais tributaire d'une technique très française, et lorsque je suis arrivé à Paris, ben, j'étais chez moi parce que j'avais été rompu à la technique française de Marcel Dupré.
À quel âge cette carrière d'organiste s'est-elle vraiment installée? Où on se dit, voilà, c'est ce que je ferai dans la vie.
Eh bien, moi, j'ai eu un coup de foudre à l'âge de 5 ans. J'étais venu à la messe à Notre-Dame avec mes parents. Je me rappellerai, ça devait être probablement vers le mois de novembre, décembre, parce que je me rappelle, nous étions montés à la tribune de l'orgue et il faisait noir. Et j'avais vu jouer mon prédécesseur. Et en sortant, j'avais été tellement impressionné par le buffet d'orgue, les tuyaux, enfin la console. Et j'avais dit à mes parents, je veux devenir un organiste. Et c'est comme ça que j'ai toujours nourri cette grande ambition, ce grand rêve. Et j'étais loin de me douter que 15-16 ans après, je devenais l'organiste de Notre-Dame de Montréal.
Et vous dites 5 ans, il y a les études, bien sûr, qui s'amorcent, oui, et tout le reste. Mais là, vous prenez quoi? Des cours de piano?
Alors, c'est obligatoire. Pour être un bon pianiste, pour être un bon organiste, il faut d'abord être un excellent pianiste. Vous savez, les grands musiciens comme Franck, qui était d'abord un pianiste, Dupré, qui avait eu son premier prix de piano en 1904 au Conservatoire de Paris, avant d'avoir son prix d'orgue, Louis Vierne, Vidor, ils ont fait du piano à l'orgue, souvent. Et ça, c'est souvent sous l'impulsion de César Franck qui a renouvelé un peu toute l'approche des claviers à l'orgue, comme telle est la technique.
Alors, vous vous mettez au piano à quel âge?
Ben, j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans. Et ensuite, on m'a inscrit à Vincent Dindy, à l'école Vincent Dindy, où j'ai fait le cours de piano, les cours d'écriture, contrepoint, fugue, harmonie, solfège, dictée musicale. Et j'ai cumulé à un moment donné et le piano et l'orgue avec Françoise Aubut. J'ai eu mon bac. Et après avoir eu mon bac, ben, je suis allé en Europe, où là, je me suis spécialisé vraiment en orgue.
La première fois que vous avez touché un orgue, parce que, bon, il y a eu, bien sûr, cette passion qu'on découvre lorsqu'on entend l'orgue à 5 ans, puis on se dit « Ah, c'est merveilleux! » Mais lorsqu'on touche pour la première fois un instrument d'une telle ampleur et qu'on est jeune, je présume, ça doit être assez impressionnant. On doit en garder un souvenir assez vivant.
Lorsque j'ai mis les mains sur le clavier de l'orgue de Notre-Dame la première fois, j'étais tellement impressionné que le soir, je n'ai pas soupé.
Vous aviez quel âge?
C'était avant de m'en aller à Paris, parce que j'étais quand même organiste à certains endroits à Montréal. Et j'avais demandé au curé la permission de jouer l'orgue, il me l'avait accordé. Et j'avais quoi? J'avais peut-être 16-17 ans. Je suis allé à Paris par la suite et voilà.
Parce que nous avons à peu près le même âge et moi j'ai un souvenir que je vais transmettre, si vous me permettez, aux auditeurs. En 1971, on se retrouve en l'église Saint-Alphonse d'Iauville, vous et moi. Nous avons à peu près le même âge, je le disais. Et vous avez fait des improvisations sur le texte de Claudel, La Passion de Claudel, dont je faisais la lecture à ce moment. Mm-hmm. Et déjà, on sentait le grand organiste que vous deviendriez.
C'est gentil.
Parce que ces improvisations étaient vraiment très inspirées, mm-hmm, et très à l'écoute du texte dont on faisait lecture.
Ben effectivement, le texte de Claudel, d'abord, j'aime Claudel énormément dans tout ce qu'il fait, la Vierge à midi, tout le chemin de la croix qu'il a composé, enfin, qu'il a écrit, et tellement d'autres choses. Claudel était un écrivain d'une grande densité spirituelle.
Et quelqu'un qui s'est mis à croire, qui est devenu croyant un peu tardivement aussi.
C'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'il a eu le coup de foudre à Notre-Dame de Paris en entendant chanter le Magnificat par la maîtrise. Et moi, je me rappelle, parce que lorsque j'étais étudiant à Paris, j'allais à Notre-Dame presque tous les jours, parce que la cathédrale Notre-Dame, pour moi, c'est mon église fétiche. Et je me rappelle me mettre tenu sur la dalle où Claudel s'est converti. Et d'ailleurs, il y a un mot imprimé dans la dalle. Ici, c'est converti, Paul Claudel.
Ah bon?
Oui.
C'est quand même une belle histoire.
Ah oui, c'est formidable.
Enchaînons avec la musique. Cette fois, vous avez choisi, parce que les pièces musicales que nous entendrons sont des pièces que vous avez vous-même choisies, l'Orchestre national de la radio française, et c'est une pièce de Villa-Lobos.
Villa-Lobos, oui. C'est le Bacanhas Brasileiras de Victoria. Alors, pour soprano et 8 violoncelles, c'est chanté par Victoria de Los Angeles, et l'orchestre est dirigé par le compositeur Villa-Lobos. C'est un disque historique, et j'ai toujours aimé cette pièce, à un point tel que je songe peut-être éventuellement à faire une transcription pour or.
C'est un air très connu, d'ailleurs, qui a été adapté différemment, même de manière populaire.
Oui, oui.
Pierre Grandmaison, organiste à la Basilique Notre-Dame, vous y êtes depuis combien d'années?
Je suis dans ma 36e année. J'ai été nommé en 1973 et je suis donc dans ma 36e année.
De manière continue.
De manière continue.
Est-ce que... Après 36 ans, il est toujours possible, j'allais utiliser l'expression, de se renouveler. Je ne sais pas si l'expression est adaptable pour un organisme. Est-ce qu'il est possible d'innover?
Mais je pense que oui, c'est toujours possible d'innover parce qu'on évolue. Hein. Lorsque j'avais 24 ans, je ne jouais pas l'orgue comme je joue maintenant. Pardon. Et... On prend une maturité dans la vision des choses, dans la manière de toucher les claviers. Mm-hmm. On apprend du répertoire nouveau. Et je pense que c'est très important de ne pas s'asseoir sur le répertoire acquis, mais il faut élargir la palette de l'éventail sonore.
Qu'est-ce qui a changé? Bien sûr, au plan particulièrement de la pratique religieuse, on sait que ce n'est pas ce que c'était il y a 36 ans.
C'est sûr.
Est-ce qu'il est possible d'aller... est-ce qu'on rejoint le fidèle de la même façon aujourd'hui qu'autrefois?
Moi, je pense que, bon, c'est sûr qu'on a une désaffection religieuse très profondément marquée, non seulement au Québec, mais c'est une désaffection qui est mondiale. C'est un phénomène social mondial. Est-ce qu'on doit être défaitiste par ça? Pas du tout. Moi, je pense que il y aura un retour du balancier. Quand, je ne sais pas. Comment ça se fera, je ne sais pas non plus. Mais je crois que les artistes, nous avons le devoir de propager le vrai et le beau, deux attributs de Dieu. Et à défaut que les gens viennent à l'Église, il faut les chercher là où ils sont et leur faire partager un trésor. Ça peut être, dans mon cas, la musique.
Peut-on, la question va peut-être vous sembler un peu directe, mais peut-on être athée et être un bon organiste dans une basilique?
C'est très délicat comme question. Moi, je pense que... est-ce qu'on est vraiment athée? Je pense qu'à quelque part, dans le fort interne de chacun, il y a une partie qui est très mystérieuse et qui rejoint une forme d'insondabilité. On peut être athée. Je connais des gens qui ne sont pas croyants, qui viennent faire de l'orgue. Alors, ils vont bien jouer. Maintenant, la transcendance de la foi ne colore pas toujours le jeu. Ils vont peut-être mieux jouer au concert qu'ils vont jouer au culte parce que c'est pour eux, c'est quelque chose de pesant. Mais moi, je pense que un artiste qui fait quelque chose dans sa sincérité profonde, qui exprime ses sentiments, exprime obligatoirement une vérité. Le fort interne est quelque chose qui dit toujours une vérité. Et pour ça, moi, je pense que on peut souhaiter que ce sentiment-là puisse être sacralisé. Mais ça regarde chacun. Moi, personnellement, si je n'avais pas été croyant, est-ce que je serais devenu un organiste? Je ne sais pas. Je me serais peut-être lancé comme pianiste ou comme chef d'orchestre ou j'aurais fait autre chose.
Mais il est évident que pour vous, le fait d'interpréter la musique des grands auteurs, des grands compositeurs, dans un cadre qui est celui de la Basilique Notre-Dame, vous inspire...
Ben, c'est-à-dire que j'ai un ministère. J'ai carrément une fonction ministérielle. Parce que je participe à la liturgie, j'ai une mission qui est un ministère et qui est celle d'être au service de la liturgie et de contribuer à élever le public qui est là et qui devient qui vient dans un endroit spécial qui peut être la Basilique Notre-Dame, qui peut être une autre église, pour justement s'intérioriser. Il y a une différence entre... C'est pas pour rien qu'on a des églises. On peut se retrouver au coin de Peel puis Sainte-Catherine, mais c'est pas évident de prier dans ça. Pas pour rien qu'on se retranche du monde extérieur pour venir s'intérioriser dans un monde intérieur, justement. Et l'orgue contribue justement à donner plus qu'une atmosphère et une ambiance, il vient donner une pulsation intérieure.
Est-ce que Maurice Duriflé vous a transmis cette pulsation?
Moi, oui, parce que, évidemment, Maurice Duriflé était lui-même un mystique. Il n'était pas facile à côtoyer, parce qu'un homme très timide, mais aussi très intérieur. Mais il nous a laissé des chefs-d'œuvre.
Dont le Sanctus du Requiem.
Le Sanctus du Requiem, vous allez entendre, c'est très court, mais c'est un chef-d'œuvre.
Alors, on l'écoute.
Oui.